Les verbaux moteurs.
Bonjour et bienvenue à votre émission qui décode l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes chroniqueurs cette semaine et chroniqueuse Brigitte Bédard. Bonjour.
Salut.
Benjamin Boivin.
Salut Simon.
Durant la prochaine demi-heure, nous reviendrons sur la sortie de l'autobiographie du pape François. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'un pape publie son autobiographie? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec un enjeu démographique au Québec. Les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec révélaient cette semaine que le Québec a compté en 2023 à peu de choses près autant de naissances que de décès, enregistrant son plus petit nombre de naissances en près de 20 ans, soit environ 78 000 naissances. C'est pas rien quand même. Benjamin Boivin, est-ce à dire que les politiques natalistes du Québec servent à rien?
Ouais, c'est ce que je pense.
Bon, c'est clair.
Ouais, je pense que les
prochaines chroniques.
Je pense que les politiques natalistes, en tout cas, servent pas à la raison pour laquelle elles ont été pensées. Au Québec, en fait, on a certaines des politiques natalistes les plus généreuses au monde. On a des allocations familiales, on a des congés de maternité, de paternité très généreux. On a des CPE, on a une infrastructure sociale qui est construite de telle manière que c'est plus facile pour les jeunes familles d'avoir des enfants ici que dans la plupart des endroits dans le monde et en particulier en Amérique du Nord.
Donc, on pourrait dire que ça a jamais été aussi facile d'avoir des enfants qu'au Québec en 2024.
Oui, je pense qu'on est l'un des cas dans l'histoire où le fait d'avoir des enfants est le plus facile. Et pourtant...
Il y en a qui se plaignent des garderies.
Ouais, ben le système qu'on a, il est imparfait dans la mesure où il se veut universel, il réalise pas entièrement sa promesse là, avoir accès à une garderie, c'est pas si facile que ça. Mais faut comprendre, moi j'ai habité à l'étranger dans des endroits où avoir accès à une garderie, ça coûtait des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Même si le système est imparfait, il va quand même dans une direction qui est assez positive là, du point de vue de la justice sociale et de la facilité d'avoir des enfants. Mais pourtant, le Québec, et je sais pas si le Québec est si pire que ça là, quand on se compare, mais en général, en Occident, on a un taux de natalité qui est très bas. Le Québec aurait apparemment un taux de natalité qui est un petit peu plus élevé que dans le reste du Canada anglais, mais c'est des différences qui sont tellement mineures qu'on pourrait dire qu'elles sont insignifiantes. Mon propos, c'est de dire qu'en général, si on a des politiques natalistes comme celle-là et qu'elles ne suscitent pas une augmentation du taux de natalité, il faut bien arriver à la conclusion qu'elles sont un échec, au moins si on les évalue à partir de l'objectif que s'était donné au départ.
OK, mais pourquoi alors les Québécoises, les Québécois font pas plus d'enfants si pourtant nos gouvernements font tout pour leur rendre la vie la plus facile avec des enfants?
Mais avoir des enfants, ce sera toujours plus difficile que de ne pas avoir d'enfants.
Ah oui?
Je veux dire, il y a pas un montant d'argent que le gouvernement fédéral ou provincial peut nous donner, un CPE que le gouvernement peut ouvrir, un système d'accès à divers services publics qui facilite l'éducation des enfants, augmente la qualité des soins qui leur sont dispensés, qui va rendre ça plus facile d'avoir des enfants que de ne pas en avoir. Et donc, si on bâtit nos infrastructures sociales, nos systèmes sociaux avec à l'esprit que la raison, ce qui va convaincre les gens d'avoir des enfants, c'est de maximiser leur intérêt personnel ou leur bien personnel dans la poursuite de cet objectif-là, on va jamais y arriver. Si moi, j'agis comme un acteur, une monade, un individu qui veut maximiser son intérêt dans la vie, j'en aurai pas d'enfants. Et même si l'État m'aide beaucoup à en avoir, ça va quand même être plus difficile.
Ben c'est frappant parce que ça me fait penser à la chronique que j'ai faite sur le livre de Valérie Roberts là, qui est toujours insatisfaite au sens où un des témoignages disait « j'ai de la misère à aller au restaurant avec mes jumeaux », tu sais, au sens où c'est sûr que si tu veux pas que ça soit difficile d'avoir des enfants, tu vas toujours vouloir encore plus de facilité, puis il y a comme un impossible.
Ou tu vas vouloir vivre la vie que tu menais avant d'avoir des enfants, ce qui est pas possible.
C'est ça, c'est comme, il faudrait que ça soit confortable, comme si on n'avait pas d'enfants, d'avoir des enfants. Mais ça sera jamais.
Mais c'est pas une attente raisonnable. C'est pas ce que ça signifie d'avoir des enfants. C'est jamais ce que ça a signifié. Et ce sera jamais possible.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le gouvernement devrait faire des grandes campagnes de pub pour promouvoir le don de soi et le sacrifice?
Ben, je sais pas si le gouvernement doit faire des grandes campagnes de pub. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut vraiment changer notre regard sur ce que c'est que d'avoir des enfants et sur ce que l'enfant est aussi. Le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment une manière fondamentale de se réaliser en tant que personne par le don. Okay? On se vide dans nos enfants. On leur donne tout ce qu'on a. Et on le fait toute notre vie. Il ne faut pas s'imaginer que ça s'arrête lorsqu'ils deviennent des adultes. Toute notre vie, on a une relation avec nos enfants où on leur donne et eux reçoivent. Puis peut-être qu'à la toute fin, si on est chanceux, ils vont nous aider dans nos derniers jours. Mais le fait d'avoir des enfants, c'est une manière de se réaliser fondamentalement comme personne par le don. Et puis, l'enfant, lui, il a besoin de son parent. Et cette relation-là, c'est pas une relation marchande où on peut maximiser son intérêt. C'est vraiment la relation qui contredit le plus, en fait, nos relations sociales, notre mode d'organisation sociale en général, l'individualisme qui caractérise nos sociétés. Et puis, c'est, en fait, aussi probablement la relation la plus naturelle qu'on est appelé à avoir. Donc, je pense que cette relation-là, en fait, elle nous montre le désordre la société dans laquelle on vit, par contraste, et ça nous déplaît de le constater.
Ça me fait penser un peu... moi, j'avais connu quelqu'un qui travaillait sur le dossier des CPE là, au ministère de la Famille. Puis le paradoxe, je pense, c'était que l'idée, c'était de donner le plus de CPE possible aux femmes pour que les femmes aient envie d'avoir des enfants. Mais sous-entendu, parce qu'une femme a besoin de travailler pour s'épanouir, c'est dans le travail qu'elle va se réaliser. Et donc, sous-entendre. Oui, c'est ça. Moi, le discours que j'entendais de ces personnes-là au ministère de la Famille, c'était, il faut absolument des CPE aux femmes parce qu'ils vont être malheureuses s'ils peuvent pas retourner sur le marché du travail. C'est là qu'elles vont être elles-mêmes. On n'est pas juste une mère, on est une femme, on a besoin de s'épanouir. Ce qui est pas faux, mais c'est juste que comme c'est de dire, l'essentiel, c'est travailler, puis ton enfant, c'est comme un projet à part.
Ouais, c'est ça, mais dans le fond, ça révèle bien des choses. Ça révèle d'une part, effectivement, qu'on a le rapport à un enfant qui est le rapport du projet. Là, on fait un enfant parce que on veut se fabriquer un petit mini-moi, une petite créature qu'on veut amener à progresser, là, comme si c'était un Tamagotchi ou je ne sais quoi. Et puis, ça révèle aussi...
Vision un peu pessimiste, quand même.
Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental là-dedans. Mais il y a aussi le rapport qu'on a aux services sociaux. Là. Je le disais j'ai lu plusieurs articles sur cette question-là dans les derniers jours pour préparer cette chronique. Et puis, une chose que j'ai vue, c'est que le Québec était une des sociétés où les services minimisent le plus l'impact d'avoir un enfant sur la vie d'une femme. Bon, est-ce que avoir des enfants, là, on devrait vouloir minimiser l'impact de ça dans notre vie? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut maximiser l'impact d'avoir des enfants dans notre vie.
Que ça bouleverse le plus ta vie.
Ben oui, c'est une chose extraordinaire. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas essayer de minimiser puis d'amoindrir les effets comme si c'était une maladie. Ça se voit aussi dans le milieu hospitalier par le rapport à la grossesse qui est souvent diagnostiqué comme une maladie. On en parle comme un problème de santé. Il y a quelque chose de fondamentalement vicieux là-dedans.
En terminant, Benjamin, tous ces programmes sociaux, ces politiques natalistes, est-ce qu'elles sont quand même pas bonnes d'une certaine manière?
Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis favorable à toutes ces politiques. Je suis parfaitement d'accord avec les allocations familiales.
Son fils va au CPE aussi.
Mon fils va au CPE. Je suis un bénéficiaire de ces services-là. Et puis, être revenu au Québec de l'étranger, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait tout ça. Ce que je dis, c'est que la réelle fin de ces politiques-là, ça devrait être de soutenir la famille, pas de s'imaginer que ça va booster les naissances, parce qu'il faut vraiment changer notre regard sur l'enfance pour atteindre cet objectif-là.
Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Le 20 mars dernier est paru en France l'autobiographie du pape François, Vivre mon histoire à travers la grande histoire aux éditions Harper. Dans ce livre de 354 pages, le pape argentin nous propose une forme de relecture de sa vie avec l'aide du journaliste italien Fabio Marchese Ragona, mon italien peut-être imparfait ici. Brigitte Bédard, bon, t'as pas pu lire le livre encore, mais tu as accès à des extraits. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'un pape publie une autobiographie? Est-ce qu'il devrait pas plus nous parler de Jésus que de lui-même?
Ben, en parlant de lui-même, je pense qu'il parle de Jésus. Mais oui, ça vaut la peine. Ben, j'étais pas mal sceptique au début. Tu sais, moi, je suis pas très... Oh, le pape, là, tu sais, même si je suis catholique, tu sais. Mais j'avoue que les extraits que j'ai lus m'ont fascinée. Puis je me suis dit, wow, c'est des extraits de vie qui intéresserait tout le monde, qu'on soit croyant ou non, même athée, là, à la limite. Quand il raconte, par exemple, quand il était sous la dictature en Argentine, comment il a fait pour, puis vraiment dans les moindres détails, pour sauver un couple de la torture, il allait voir des généraux d'armée pour essayer de monnayer, si tu veux, la protection de telle personne. Il essayait vraiment d'aider les séminaristes, leur disait de respecter le couvre-feu, de jamais sortir seul. Donc, tu rentres dans une histoire.
C'est une aventure, sa vie.
Oui, oui, oui. Vraiment, là, tu sais, c'est un bonhomme qui a quand même vécu, va bientôt avoir 90 ans, là. Il a du vécu derrière la cravate, puis il raconte ses histoires. Il y a des extraits que c'est lui qui parle. C'est vraiment lui qui a écrit, mais la plupart du temps, c'est le journaliste en question qui retranscrit les histoires qu'il raconte sur sa vie.
Quelle est, selon toi, l'intention du pape? À qui il s'adresse? Quel effet il cherche en publiant ce livre-là?
Ben, il a dit dans son livre qu'il a fait ce livre-là pour les jeunes, spécifiquement, Ben, en disant, chaque personne, quand on devient vieux, genre comme moi, là, ben, on écrit son histoire. C'est comme un héritage qu'on laisse pour éviter aux jeunes de faire les erreurs que nous, on a fait, soit dans notre jeunesse ou dans notre vie adulte. On fait tous des erreurs. Puis je me suis dit, ben moi aussi, j'aurais aimé ça que ma mère, mon père me racontent plus en détail leur vie pour vraiment apprendre de ça. Puis je pense que c'est ça le but. Mmh. En tout cas, il dit que c'est ça le but principal.
Est-ce qu'il raconte des erreurs qu'il a faites?
Oui, 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 il en raconte quelques-unes.
C'est quoi?
Genre une erreur sentimentale. Ben, une erreur. Il dit pas que c'est une erreur. Ben là, il y a des sources qui se contredisent. Tu sais, comme j'ai pas eu accès au livre, il y a différentes sources qui disent que il est comme tombé en amour avec une femme alors qu'il était séminariste. Et il y a un autre journaliste qui dit non, il était prêtre. Puis alors là, je vais pas partir une rumeur, mais
c'est
lui,
ce qu'il
dit,
fait avec ce sentiment amoureux là qui compte.
C'est ça. Mais lui, il dit c'est tout à fait normal là d'être. Mm. Puis moi, en fait, ça me rassure là, un prêtre qui peut avoir un désir pour une femme, je trouve que c'est normal. C'est un homme, tu sais. Donc il raconte ça puis que ça l'a troublé pendant des semaines dans sa prière tellement il était obsédé par la beauté et l'intelligence de cette femme-là. Puis, ben, il est revenu après ça à son appel, à sa vocation. Puis, ben, ça lui a permis d'expérimenter ça, tu sais.
Toi-même, Brigitte, tu as publié non pas un, mais deux livres autobiographiques sur ta vie.
Ouais, moi, je suis pas mal plus dans les détails que papa, par exemple.
Mais peut-être qu'il n'y a pas eu une vie semblable aussi. Il y a peut-être au moins de détails comme ça.
Il a été menteur dans un bar, je pense, quand il était jeune.
Ah, ça, j'ai rien lu là-dessus, mais c'est intéressant.
C'est ce qu'on disait lorsqu'il était élu pape. Peut-être
il n'a pas l'air d'avoir le physique de l'emploi, pourtant.
Moi, il a l'air plutôt petit.
Il avait peut-être 87 ans.
Il a l'air méchant, par exemple. Des fois, il a des looks méchants.
Moi, je suis curieux, Brigitte. Est-ce qu'il parle un peu de quand le moment où il a été élu pape? C'est toujours un peu mystérieux, ça, les conclaves.
Oui, c'est vraiment... En fait, c'est un extrait où je me suis esclaffée de rire. Là, c'est que quand il a été élu... Mais en fait, il raconte aussi, pendant le temps de l'élection, comment ça se passe un peu pour lui, sans révéler des secrets qu'il n'a pas le droit de révéler, mais comment lui, il a vécu les petites manigances en coulisses. Là. Comment
le sort, Vatican.
Ben oui, tu sais, okay. Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que eux autres, ils se promènent, ils jasent, ils prennent des cafés, ils jasent, puis là, ils vont manger ensemble. Mais pendant ce temps-là, il y a une enquête qui se fait sans que les gens, les futurs candidats, si tu veux, se rendent vraiment compte qu'ils sont peut-être papabilis.
Amané s'est rendu compte que tout le monde parlait dans son dos, ben, de lui.
Ben pas dans son dos, non. Mais il se faisait poser des drôles de questions, tu sais, puis il se faisait appeler mon éminence. Pourquoi qu'il dit ça? Il dit, à un moment donné, il veut emprunter un papier, puis il lui donne ses notes. J'ai juste des notes écrites, je vous donne ça. Fait que un autre monseigneur lui répond, j'aurai alors une relique du futur pape. Il dit, mais j'ai pas compris. Puis, il y a eu trois signes comme ça dans les jours qui ont précédé son élection, où il dit, ben c'était vraiment des signes que ça allait être moi, là, mais il était pas préparé.
Il s'y attendait pas tant que ça.
Non, lui, il avait déjà acheté son billet de retour, puis il avait déjà préparé toutes ses homélies pour la semaine 5 qui s'en venait. Donc, ça l'a déstabilisé complètement, là.
Puis il y a pas une histoire aussi de par rapport aux souliers là quand on devient pape on veut nous enfiler tout de suite des souliers
vraiment,
rouges.
Quand t'es élu pape là ben là il raconte puis t'as quelqu'un qui t'explique tout comment on doit mettre puis le repli du vêtement puis tout ça puis il donne les fameux escarpins rouges tu sais puis lui il dit je vous remercie beaucoup pour votre travail monseigneur mais je suis attaché à mes affaires je porterai seulement la soutane blanche mais je garderai ma croix pectorale d'archevêque et mes chaussures orthopédiques
très incarné.
Le gars, il a ses orthèses, puis il veut garder ses orthèses.
En terminant, Brigitte, quel visage du pape ou de la papauté est-ce que ce livre-là, selon toi, va mettre de l'avant?
Ben, je pense que il va continuer dans l'image qu'il donne depuis son élection en 2013, un homme qui est profondément humain, qui a vécu plein de choses humaine, genre l'alunissage en 69, le bombardement à Hiroshima, il a vécu ça, ben il l'a pas vécu personnellement, mais il a été spectateur, il avait quand même 8 ans à l'époque, ça l'a marqué profondément, au point où il voulait aller en mission au Japon pour aider les gens là-bas. C'est un gars qui a vu la chute du mur de Berlin, qui a vécu la dictature en Argentine, puis il parle du 11 septembre 2001, il parle d'un paquet de choses où on peut vraiment à se sentir près de lui. Puis je pense que c'est un pape qui a toujours eu ça à cœur. C'est la phrase qui s'est fait dire quand il a été élu, n'oublie pas les pauvres. Donc, pas juste les pauvres financièrement, mais...
Les pauvres de cœur aussi.
Oui, les pauvres de cœur, les gens ordinaires, dans le fond. Puis je pense que c'est ça qui ressort de ce livre-là, des extraits, en tout cas, que j'ai pu lire. Un homme ordinaire, mais qui a une destinée quand même extraordinaire.
Brigitte Bédard, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup.
Plaisir.
Brigitte Bédard, c'est maintenant venu le temps de la suggestion culturelle de la semaine. Un nouveau film québécois vient de sortir.
Un film qui sort aujourd'hui. Alors, c'est le titre « De l'autre côté », qui est un documentaire sur les moniales de l'abbaye des Deux-Montagnes. Donc, ça sort aujourd'hui.
Les moniales bénédictines.
Oui, ce sont
dans
les
la région
bénédictines.
Proche de Montréal.
C'est ça, au lac des Deux-Montagnes, là. Okay. Donc, c'est un documentaire. Le réalisateur, c'est Lesandro Socrates. Excusez mon espagnol. Et dès aujourd'hui, à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Et ben c'est ça, ce sont un peu de l'autre côté, ça veut dire de l'autre côté de la barrière monastique, n'est-ce pas?
J'imagine qu'il a pu entrer dans le cloître.
Il rentre dans le cloître et il va dans la vie quotidienne de ces femmes-là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais accès à ça, là. Donc je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir ça.
Puis un autre film aussi qui vient de sortir, film américain sur une sainte pas mal inspirante.
Le film sur Santa Cabrini, donc c'est sainte Francesca Cabrini qui est une Italienne qui est arrivée à New York en 1889. Qui était avec le lot des immigrants italiens. En fait, elle voulait, elle, venir aider les immigrants ici qui arrivaient d'Italie pour la plupart, qui étaient extrêmement pauvres, qui mouraient de faim carrément, là, qui étaient méprisés parce qu'ils étaient italiens. Et c'est un film de Alejandro Monteverde. Ça, c'est mon italien qui est un petit peu meilleur. Et le même réalisateur qui a fait The Sound of Freedom. Faut-il dire que Cabrini, c'est la patronne des immigrants. Et le film est disponible sur la plateforme Angel Studio.
Merci beaucoup, Brigitte. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire vos questions, commentaires, objections aussi à verbomoteur@commercial.com. Cette semaine, on se laisse en musique sur la nouvelle chanson « Je fais des efforts », moi aussi j'en fais des efforts, de l'auteur, compositeur, interprète québécois Étienne Dufresne. C'est tiré de son plus récent album qui porte presque le même nom, là. Étienne Dufresne fait des efforts, sorti le 26 janvier dernier. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Confort pour chanter ce que je dis pas. Tu me cherches, mais tu me trouveras pas. Dis-moi ce que je dois être pour que tu veuilles de moi. Je fais des efforts, je suis planté là, à cheval sur la barrière entre le chien et le chat. Je sais plus de quel bord pointer du doigt, je bascule de gauche à droite, perdu de haut en bas. J'ai fini de vous plaire, ce qui me restait à moi. Je suis tout à l'envers, mais je sais ce que je suis pas. J'ai pas trop le choix, j'attendrai pas d'être mort pour retrouver la joie. Chasse au trésor qui finit pas, couché dans mon confort, à vouloir ce que j'ai pas.